Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien, au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment prévenir le discours des haines en période électorale? On en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien. Vous voulez intervenir? Appelez-nous au 099-706-9941. 099-706-9941. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de l'impact des conflits armés sur l'environnement et les ressources naturelles. Toute l'équipe est en place pour vous servir. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation. Alain Goy à la mise en onde. Au micro, c'est jeudi Daniel Kachama. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
S'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Comment prévenir le discours de haine en période électorale? Vous savez, les messages de haine sont de plus en plus diffusés en cette période préélectorale en RDC. C'est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que ce genre de messages circulent. Les principales victimes sont les politiques. Ces messages sont diffusés particulièrement sur Twitter, TikTok, Facebook et autres. On assiste à la stigmatisation tribale, religieuse et autres. Pour certains experts, il est important de contrecarrer le discours des haines, même s'il ne produit pas des effets tout de suite, parce que ce genre de discours, ça va se cristalliser dans l'esprit des gens et ressurgir à un moment donné si le contexte s'y prête. Alors comment prévenir les discours des haines en période électorale? Maître Gloire Manessa est coordonnateur de l'action citoyenne des luttes contre les discours des haines. Maître Gloire, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission au Capi Service. La première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par discours des haines.
Oui, d'entrée de jeu, je commence par saluer tous les auditeurs de la radio Capi. Par discours de haine, il faut comprendre tout propos ou tout message. Il peut être écrit, il peut être oral, il peut être par un mème ou diffusé par image, mais qui stigmatise ou bien qui déshumanise l'autre, se servant des caractéristiques intrinsèques liées à sa personnalité. Ça signifie, ça peut être la religion, la race, l'opinion, la tribu plutôt, ou toute autre considération péjorative qui déshumanise, qui stigmatise l'autre par rapport non à ce qu'il a comme valeur, mais par rapport à ce qu'il est comme sujet.
Voilà, c'est ça les discours des haines. Alors, qu'est-ce qui explique comment expliquer le fait que c'est souvent à l'approche de la période électorale, à l'approche des élections, qu'on assiste à la résurgence de ce genre de discours?
Oui, effectivement, selon les normes internationales d'appréciation d'un discours de haine, le contexte dans lequel les propos ou les messages ou les discours sont tenus est aussi pris en compte pour apprécier que tel message est un message de haine ou pas. Et dans le cadre particulier de notre pays, il y a généralement deux contextes dans lesquels les messages de haine sont plus proliférés. Le premier, c'est le contexte sécuritaire, le contexte sécuritaire du pays avec la guerre d'agression qu'il y a à l'Est. Mais le deuxième, et le plus récurrent d'ailleurs, c'est le contexte politique, notamment avec l'organisation des élections. Les propos de haine trouvent vraiment place dans la raison. Ils sont justifiés parce que nos partis politiques sont assis sur des critères non objectifs, non idéologiques, plutôt sur des considérations tribalo-ethniques ou rattachées à des individus, et que comme le débat est centré autour, non des idées, mais plutôt des personnes, des individus, il est vraiment logique qu'on retrouve des messages qui vont dans le sens de s'aborder la démocratie. Et encore, dans notre pays ici, notre démocratie est en phase presque de maturation. Nous l'avons commencé depuis San City et après les élections, la promulgation de la Constitution du 18 février. Mais nous sommes en train d'aller vers une maturation de la démocratie qui, malheureusement, peine à vraiment s'ancrer dans la culture du Congolais, qui rentre toujours par des velléités tribalistes et des propos discriminatoires envers d'autres pour se trouver de l'espace politique. Les discours de haine trouvent l'assise dans l'environnement politique actuel, dans les contextes électoraux actuels, parce que les partis politiques ne jouent pas le rôle d'éducateur. La société, de façon générale, aussi perdu son repère. Nous avons presque une crise de repère dans la société congolaise où les valeurs fondent une société. Même pas, ne parlons même pas de société démocratique. On doit rentrer dans la société traditionnelle africaine qui était assise des valeurs de collaboration, des valeurs de cohésion, d'unité entre ceux qui vivaient des échanges et d'autres. Ces valeurs ont disparu aujourd'hui. C'est plutôt l'ego, les mots, avec tout ce qu'il y a comme fait que nous vivons dans la pratique, notamment la privation de la liberté, de certains droits et de fondation inhérents au peuple, dont la liberté d'opinion, la liberté d'expression, mais aussi c'est excessif, certains acteurs qui n'ont pas à tout pour eux, parce qu'au pouvoir, ils subsistent par des moyens. Ici, je vais parler de la corruption. Tous les moyens sont donc bons pour avoir certains moyens. Et donc, les discours de haine sont les plus gros moyens qui sont pris en place et pour discréditer l'adversaire. Et c'est ce qui justifie les réponses en ce moment.
Voilà, c'est en ce moment où on se sert des discours de haine pour discréditer les autres challengers politiques. Bien, on en parle. Vous avez des questions, vous avez des témoignages, des préoccupations par rapport au discours des haines bien composé. Le 099-706-99-41 pour intervenir dans cette émission de la vie au quotidien. Alors, une autre question est de savoir, on a l'impression que les réseaux sociaux constituent vraiment les cadres appropriés, l'espace approprié où prolifère le discours des haines. Maître Gloire.
Parce que l'avènement des réseaux sociaux a été mal accueilli en Afrique centrale, dans notre pays. Ils sont au lieu de passer où les messages passent, les réseaux sociaux sont transformés plutôt à un fonctionnement où on doit viser tout ce qui est anti-vaccin. Et nous n'allons pas oublier que parmi les plus grands acteurs des discours de haine dans notre pays, les acteurs gouvernementaux, mais aussi les acteurs politiques et les leaders. Alors, comme c'est eux qui prennent toute la société, il n'y a pas une certaine en République démocratique du Congo, les plus qui ont beaucoup de moyens sont en politique, sont au niveau du gouvernement, et c'est eux qui fixent la logique, c'est eux qui orientent l'opinion, c'est eux qui orientent l'opinion dans la société le plus bas. Pourquoi ils passent par des canaux qui peuvent être le média et avec l'opération des médias à l'inocité, ces autres sociaux sont intéressés très propices pour des messages d'intérêt. Et c'est là, ce n'est pas seulement aujourd'hui, nous avons vécu ça plus avec justice d'acuité après les élections de 2019, où des propos péjoratifs comme talibans, pakistanais, de faire ses propos en jeu, au presque gagner le terrain, jusqu'après, c'était d'être institutionnalisé. Et aujourd'hui, je n'ai pas étonné de voir que les officiels de l'État prolifèrent pour un message discriminatoire, s'attaquent, et les réseaux sociaux, c'est le terrain propice où la population est facilement captive et on veut n'importe quoi parce qu'on ne sait pas vraiment contrôler ce monde des réseaux sociaux. Il n'y a pas une légifération pointue efficace pour contrôler le monde des réseaux sociaux. Et c'est un terrain presque où on peut tenir n'importe quel discours avec tous les dangers de la promotion de la cohésion sociale pour la promotion de la
paix. Oui, maître, mais aujourd'hui, nous avons la loi sur le numérique qui vient quand même contrôler et gérer les secteurs.
Oui, la loi sur le numérique, il y a un article qui interdit les informations ou les propos des réseaux sociaux, les propos diffamatoires, mais ce n'est pas efficace. Il n'y a pas une situation très appropriée contre le discours de haine, contre les propos tribalistes en République démocratique du Congo. Encore que même si les lois existaient, l'application de la République démocratique du Congo est un peu difficile. Nous voyons comment les acteurs majeurs et des propos de haine dans les réseaux qui sont connus, mais ils sont pris, ils sont plutôt sanctionnés positivement. L'impunité, c'est un autre problème en République démocratique du Congo. Les lois peuvent être la culture numérique. C'est quelque chose de présent, c'est quelque chose de bon, mais ce n'est pas efficace pour enlever les discours de, par rapport à l'air en plein. Au contraire, il y a une proposition de loi très importante dans la session parlementaire. La session parlementaire est en train de la dernière session de la législature. Mais elle n'est pas cette loi-là qui est plus petite, qui prévoit des sanctions, qui prévoit un organe qui peut facilement saisir les juridictions. C'est la proposition de loi de l'honorable Sakata. Et à ma surprise, un député, un membre de la commission de loi de l'Assemblée nationale que nous avons contacté sur cette question nous a répondu que si cette loi devait être promulguée, tout le monde nous serons en prison. Ça signifie que l'autorité du pays,
donc cette loi Sakata. Oui, maître, la loi Sakata n'a même jamais été programmée jusque-là.
Elle n'a jamais été programmée. Elle a été détruite par le bureau, mais elle continue à pourrir dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Et ici, je vous dis, je donne un témoignage, un membre de la commission des lois, donc la commission PH de l'Assemblée nationale, à qui on a posé la question de savoir pourquoi cette loi n'est pas alignée pour être débattue et adoptée. Il répond, si cette loi devait être adoptée et débattue, nous serons tous en prison. C'est un aveu à un moment qui dit qu'il sait que les acteurs institutionnels sont les plus grands propagateurs, sont les plus grands acteurs du message de haine, du message de balise qui divise la communauté pour des fins politiques, et que si nous avons une législature pointue comme celle-là qui prévoit qu'il y ait un organe sous contrôle du Parlement qui peut facilement saisir les juridictions pour, contre les acteurs des discours de haine, et que, comme cet organe pourrait être contrôlé par la société civile, il y aura effectivement des actions qui pensent que tout le monde sera condamné. Donc les discours de haine sont entretenus en République démocratique du Congo, et contre ces discours est également entretenu par une certaine classe qui pense qu'il faut recourir par ces pratiques qui divisent la communauté pourvu que les pouvoirs soient conservés et que les pouvoirs aient conservé nos moyens que les pouvoirs donnent dans la République.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Comment prévenir les discours de haine en période électorale en République démocratique du Congo? Godet nous appelle des Kikuit, Ismaël et Talumbashi. Vous voulez également participer à cette émission? Composez le 099-706-9941.
Au Capidance, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, Rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capidance, les mercredis jeudi de 21h à minuit. Le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Bien, comment lutter, comment prévenir le discours de haine en période électorale, voilà, on en parle aujourd'hui dans au Capi Service. Bon, comme les discours d'Anne est déjà là, qu'est-ce qu'il faut faire alors comme pour lutter contre cela? Nous avons Aline Godet de Kikwit et Ismaël de Lumbashi. Godet, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au discours d'Anne?
Vraiment, ces mathématiques du jour étaient importantes pour nous. Le discours de haine de la ville de Kikwit. Et surtout, monsieur le journaliste, dans cette période électorale, nous sommes dépaissés. Discours de haine dans la ville de Kikwit. Il y a des politiciens entre eux. C'est change de parole par des radios locales, par des églises. Un député vient à Kikwit, il va appeler un ensemble quelqu'un pour l'église catholique. Il rassemble même le monsieur l'abbé, le pasteur, le diacre, pour dire que non, vous voyez, ne votez pas l'autre là, vous me votez, prenez mon numéro, c'est 58, je peux vous faire ça. Tout ça, c'est pour des discours de haine. Et l'autre commence à l'air privé, et surtout ceux qui sont avec les radios, vraiment pas moyen. Mais, on a commencé donc les propagandes précoces ici, dans la ville de Kikwit. Laissez-moi vous dire, j'ai des préoccupations à poser à l'invité. Est-ce qu'il n'y a pas la loi à ce qui concerne les discours de haine ici au Congo? C'est une deuxième préoccupation. Je voulais savoir, l'invité nous précisait bien, puisqu'il y a une anarchie totale entre l'Église et la politique. Est-ce qu'il y a différent entre l'Église et la politique? Puisque la politique est engendrée dans la politique, dans l'Église, l'Église est engendrée dans les politiques. Vraiment, c'est bizarre. L'invité peut m'éclairer. Est-ce qu'il y a une différence entre la politique et l'Église? Voilà, c'est Godet Kidiongo depuis la ville de Kikwit.
Merci Godet Kidiongo. On va accueillir Ismaël de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour Johnny, Daniel Kacham. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, le discours de haine devient une monnaie courante. Mais à ma grande surprise, tout vous comme moi, il y a les propos qui ont été prononcés par un ancien président de la République qui a dit « On divise pour mieux régner ». Mais comment, du temps où ce discours a été prononcé, les gens n'avaient pas tiré plus attention, envie de ne plus se diviser qu'autant plus qu'aujourd'hui? La deuxième préoccupation, c'est de savoir, nous avons, soit avant ou après les élections, la vie doit continuer ou ça, elle doit s'arrêter parce qu'il y a les élections. Mais qu'est-ce que nous constatons présentement? Nous avons vu que la haine que nous avons a commencé depuis longtemps et on n'a pas pu prendre l'initiative en vue d'éviter cela. Des fois, on chante l'hymne national, on dit nous allons léguer à notre prospérité. Mais qu'est-ce que nous allons léguer à notre prospérité? La haine, la violence, le tribalisme. C'est ça ce que nous voyons. Si nous comptons aux listes de partis politiques, nous sommes presque à 1000. Les tribus, nous sommes à 700 quelques tribus. Je vous dis, il est difficile. Les radios, chaque parti politique a sa radio. Bon, il peut faire tout ce qu'il... C'est-à-dire, il peut accommoder de sa façon. C'est ça ce qui unit les choses. Et nous pouvons être unis plutôt qu'être divisés. Les élections, pour moi, je pense, je demande à l'invité. Comment on peut faire en vue que les élections soient un temps de divertissement et de bonheur plutôt que de haine tribale et de haine du sang? C'est ça vraiment, il est difficile si on ne tire pas attention parce que cette haine a commencé avant même pré-campagne que nous sommes avec vous. Il faut plus tirer l'attention. Vous voyez, même les discours des plus nommés de la politique, un a dit, si ce candidat-là ne passe pas, nous allons mettre les faits. Tout ça, c'est quoi? Nous comprenons bien que chaque tribu veut avoir son candidat. Chaque tribu veut avoir son candidat. Mais du temps de la compétition électorale, est-ce que ça doit être difficile, facile? Ça doit être le fait plutôt que le normal. Il faut assez créer une conscientisation des gens en vue qu'on revienne à la manière de la RDC, comme la Constitution dit, la RDC sera unie et indivisible. À mon niveau, c'est ça. Merci beaucoup. Inch'Allah.
Merci à vous, Ismaël de Lumbashi, pour cette intervention. Maître Gloire, vous avez la parole. Votre réaction par rapport à ce que les auditeurs viennent de dire.
Merci beaucoup. commence par notre ami qui est qui quitte. La connexion n'était pas bonne. Je n'ai pas pu m'intéresser quoi bien maîtriser le nom et l'intégralité de leur question. Mais au moins, j'ai retenu quelque chose d'important. Il a parlé des discours de pré-campagne qui versent déjà vers les propos de velléités tribalistes qui divisent la communauté.
Et les églises, et les candidats vont même dans les églises pour passer des messages comme ça. Ne votez pas pour l'autre, votez plutôt pour moi, etc.
Non seulement les candidats, ici, nous avons aussi écouté certains pasteurs qui ont utilisé la chaire de l'église face à leur, je peux dire, chrétien ou leur fidèle pour propager la haine contre certains candidats. Évidemment, ce sont des choses que nous sommes en train de déplorer à tous les niveaux. Mais il ne faut pas oublier que cela est venu, si on doit partir d'une petite histoire récente, cela a commencé à partir au moment du dépôt des candidatures à l'élection du président de la République, où certains pics entre les candidats ont enflammé la toile jusqu'à développer ces velléités tribalistes, et qu'il fallait qu'au niveau des autorités, surtout ceux qui régulent la campagne électorale, les CESAC qui contrôlent les discours des politiciens, les discours et les propos qui se tiennent pendant la période électorale, de veiller à ce que les mesures soient renforcées pour que cette velléité tribaliste, cette image que la campagne est en train de vouloir donner déjà, une image d'une campagne incendiaire, soit régulée. Par rapport à notre ami de Lubumbashi, il pose des questions de qu'est-ce que nous devons effectivement faire pour que la République et la paix règne dans les pays, que les élections soient des moments citoyens d'échange louables et que ça ne soit pas des moments de guerre, d'attaques ciblées, et que si on doit léguer à la République démocratique du Congo, quel genre de pays. Il a dit une chose très importante, que les propos de haine n'ont pas commencé aujourd'hui, évidemment. Et là, ça m'a juste fait rappeler à une certaine époque, lorsque certains compatriotes au sud Kivu, je parle précisément de Banyamulenge, lorsqu'ils disaient qu'ils étaient victimes des propos de haine dans leur communauté où ils vivaient là-bas au sud Kivu, dans la majorité des Congolais souvent disaient qu'ils se victimisaient et qu'on sort. Mais aujourd'hui, la situation a pris presque les abords nationaux, au Kasai, dans les Grands Bandundu, Kwamutu, au Katanga, nous vivons ces propos. Et nous sommes en train de nous rendre compte que c'est un fléau très dangereux qui doit être rapidement stoppé, où les mesures d'encadrement doivent être prises pour éviter que ça déborde et que ça fragmente le pays. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? La République, la démocratie n'a de valeur que lorsqu'elle est bien vécue par la population. Parce qu'on dit un régime démocratique, c'est un régime qui met le peuple au centre de l'action de l'État. C'est le peuple qui est le détenteur du pouvoir, c'est le peuple qui contrôle le pouvoir, c'est le peuple pour qui le pouvoir est rendu. Et que ce peuple-là, lorsqu'il a un niveau de civisme et de citoyenneté qui est poussé, il va lui-même réguler, il va lui-même bloquer certaines velléités qui peuvent être divisionnistes ou séparatistes. Parce que s'il faut compter sur la force des lois, s'il faut compter sur le bon comportement des autorités qui dirigent le gouvernement, l'État, et ça je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle depuis longtemps, après les indépendances, nous avons eu les successions des régimes qui n'ont axé leur action que vers la protection tout parfait de leur pouvoir et par tout moyen possible. Et on utilise même mal ces dictons qu'on dit tout moyen est bon pour arriver au pouvoir. Ces moyens machiavéliques là. Alors, oui. C'est à la population d'atteindre un degré de maturité pour savoir distinguer. Je ne dis pas que la population congolaise n'est pas mature. Avec la succession des échéances électorales jusqu'à arriver en 2018 aujourd'hui, la population a acquis un très grand degré de maturité. Mais je sais qu'il y a des conditions, la souffrance, les difficultés qu'il y a dans les pays, la pauvreté qui fait que ventre crée n'a point d'oreille. À un moment, on cède à certains devoirs qui sont nôtres. Mais la population doit se résilier, doit renforcer sa résilience face aux propos qui nous viennent. Tout acteur politique, tout acteur institutionnel, tout leader d'opinion, même ton père dans ta famille, lorsqu'il t'oriente vers un discours qui est divisionniste et que tu trouves qu'il ne peut pas te permettre de vivre en paix avec ton voisin, il faut développer un esprit critique pour boycotter ces discours-là. décourager les candidats qui viennent avec des propos divisionnistes, décourager, sanctionner négativement tout candidat qui utilise le discours incitatif à la haine pour s'obtenir votre sympathie. Parce que en venant avec ces propos, l'unique objectif qu'ils ont à poursuivre, c'est d'obtenir la sympathie de la population afin de se faire populaire ou populiste et venir chercher le pouvoir à Kinshasa. Lorsqu'ils viennent sur terrain avec ces propos, sensibiliser au niveau local, sensibiliser dans les églises, là on exhorte les leaders d'opinion, les
oui.
leaders religieux au niveau...
Maître Gloire, un instant, on va accueillir Dieudonné de Lubumbashi. Bonjour Dieudonné.
Oui, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre le discours des haines en période électorale?
Ah oui, je pense que mes précédents ont déjà dit quelque chose. Et j'ai un peu un exemple là que je vis. Vous savez, M. Jody, les problèmes commencent par la base de nos politiciens. Parce que beaucoup de membres de ceux-là qui se trouvent dans des partis politiques, plusieurs garçons n'ont pas la notion de la responsabilité. Et beaucoup de gens, de fois, ils n'ont pas le niveau intellectuel. C'est pourquoi beaucoup de jeunes sont beaucoup manipulés. Je viens de suivre quelque chose ce matin. Le genre d'un parti politique qui est au pouvoir, qui peuvent dire, je ne veux pas citer les noms, mais qui disent que non, Moïse Katumbi ne peut pas arriver par exemple à Kasumbalesa, ou qu'il séjourne de Lubumbashi, qu'il n'arrive pas à Kasumbalesa. Mais je dis, avec des histoires pareilles, la personne est candidat à la présidentielle. Comment est-ce que le membre d'un parti politique peut faire un discours en plein air pour dire non, celui-ci ne peut pas venir ici? Comment quelqu'un peut interdire à un Congolais qui a eu toutes les autorisations par la Cour, par toutes les institutions, que non, sa candidature est confirmée, mais comment vous pouvez dire que non, il ne peut pas venir ici? Et tout ça, ce n'est pas le responsable du parti politique qui parle, ce sont les membres du parti. Et tout ça, c'est la mauvaise marche a commencé avec le responsable du parti là. Parce qu'ils sont en train de donner de mauvais discours. Et tout ça, ça ne donne pas le privilège de vivre l'amour de la patrie. C'est pourquoi des choses pareilles sont à décourager. Et la seule chose que je peux aussi demander, Nos lois que nous sommes en train de voter dans des assemblées nationales doivent être mises en pratique. Parce que si on nous dit seulement on a voté telle loi, dernièrement on a entendu, il y a la loi qui parle du discours de haine.
Oui,
mise en pratique.
Non, la loi n'a pas encore été promulguée. Il y a une proposition faite par l'honorable Sakata d'une loi contre les discours des haines, mais jusqu'à ces jours, cette loi n'a pas encore été débattue en plénière.
Ouais, vous allez comprendre que ceux qui doivent voter cette loi sont en train de freiner de telles lois parce qu'elles-mêmes gagnent quelque chose dans tout ce qui se passe.
Voilà, l'invité a dit tout à l'heure, qu'il aurait parlé même avec un député qui a confirmé que c'est difficile de faire passer cette loi-là parce que ils seront tous concernés.
En tout cas, nous demandons seulement que nos dirigeants politiques nous aident parce que nous sommes une grande nation, un grand pays qui est envié dans le monde par beaucoup. Et nous devons cultiver l'amour, c'est ça au moins ce que j'avais à vous dire, monsieur Jody.
Bien, merci. On va accueillir José qui nous appelle depuis Tatana. Bonjour.
Ah, bonjour, cher journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la lutte contre les discours de haine?
Oui, en tout cas, par rapport à la lutte contre les discours de haine, en tout cas, nous aimerons ce que les autorités qui sont censées réguler les histoires des médias et surtout les autorités des différentes partis politiques doivent vraiment aussi nous aider en donnant une bonne mission aux militants, puisque les haines, donc les discours de haine n'ont pas commencé aujourd'hui bien sûr, mais nous sommes rendus compte que depuis un temps, c'est devenu vraiment la monnaie courante. On en parlait partout, dans des réunions, jusqu'à même apparemment dans des églises. Ce sont des choses qui deviennent vraiment trop dangereuses. Il y a le CESAC, je ne sais pas si M. Christian Bossé, mais le CESAC, jusque-là, avec la loi pour sanctionner les médias certains et réguler aussi les discours sur les réseaux sociaux, si cela est déjà d'application ou pas. Là, je viens de trouver que les lois de qui traînent encore au niveau de l'Assemblée nationale ne sont pas encore appliquées, mais surtout et surtout vraiment dans cette période de campagne, qu'on nous aide vraiment surtout les militants des partis politiques. Comme l'autre vient d'intervenir, les discours qui nous a fait tous mal, c'est les discours des uns de Kasumalesa. Donc, au moins peut-être si on pourrait comprendre ça, ce sont les attaques qui sont politiques. Mais si ce sont les attaques physiques, là on dirait c'est une chose, on dirait une déclaration de guerre civile, la chose que nous ne voulons pas. En tout cas, nous voulons c'est que nos autorités, dans les différents partis politiques, qu'on puisse un peu vraiment éduquer les militants à la tolérance. J'ai suivi un message du chef de l'État quelque part, il a dit, bon, il a pris avec regret et il appelle au peuple de vraiment être tolérant pendant cette période. Mais aussi, surtout, mettre les mesures d'application sur le champ et d'être vraiment impartial quand il faut punir les gens et dans leurs discours. Vraiment, les choses vont très, très, très mal. Les jeunes, ils sont dans les réseaux sociaux, pas seulement dans les réseaux sociaux, mais c'est venu vraiment la monnaie courante. En tout cas, merci beaucoup pour cette émission. Nous voulons que vraiment nos autorités nous donnent l'éducation dans les bases pour que les choses vraiment ne puissent pas aller dans ce sens-là. C'est un peu ça ma contribution.
Bien, merci pour monsieur, voilà. José de Katana, voilà, je crois que c'est au sud Kivu. Bien, merci José d'avoir appelé. Maître Gloire Manessa, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, ils ont tous raison. Ils ont lancé un message de sensibilisation et surtout d'interpellation auprès de l'État. Et je vais encore en revenir, enfoncer dans ce même sens pour interpeller les autorités gouvernementales. L'État doit être proactif face au discours de haine. Nous les suivons. Aujourd'hui, officiellement, ils ne sont plus voilés. C'est officiellement que même les officiels, dans certains niveaux, prolifèrent ces messages. Nous avons entendu récemment, dans certaines vidéos, un gouverneur, le gouverneur Okasai, qui dit qui alerte à d'autres candidats que ici chez Okasai c'est le terrain des candidats Félix Tshisekedi et que si les autres veulent battre campagne, ils doivent aller battre cette campagne ailleurs. Et vous comprenez que ce message a eu du répondant parce que peut-être que nous n'avons pas lié les effets à leur cause. Ce message a eu du répondant. Un candidat, Martin Fayulu, s'est rendu à Tshikapa. Vous avez suivi ce qui s'est passé. Sa voiture a été caillassée. Dans un régime démocratique, sa voiture a été caillassée. On se limite à des condamnations. Aucune responsabilité n'a été établie. Est-ce que les...
Il y a même un autre candidat au Kassai qui avait reçu un jet de pierre. On avait vu également. Voilà, on avait vu également les images. Il y a déjà cette... Voilà, un instant, il y a déjà l'intolérance politique. On va accueillir Safari depuis Gabarrière et puis je vous donne la parole. Maître Safari, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour monsieur, bonjour.
Quelle est votre question?
Ah oui, je disais que les gens ont beaucoup postulé. Lorsque je vois surtout députation provinciale et nationale, les gens ont massivement postulé, mais lorsque je les vois, je pense qu'ils ont quand même les niveaux de postuler, mais je doute qu'il ait donc la qualité de postuler. Ce qui me rappelle qu'il y aura nécessairement le discours sanguin ou le discours de haine. Maintenant, monsieur le Viteur vient de nous dire qu'il n'y a pas une loi à propos de ce discours-là, donc je regrette. Alors, lorsqu'il y aura le discours de haine, qu'est-ce que celui-là, à l'égard de qui on a prononcé ce discours, fera. Est-ce qu'il doit subir ou bien il aura quand même le lien de poste, d'aller quand même acquiser l'entrée là? C'est seulement ce qui me préoccupe, sinon bonne journée à vous.
Bien, merci. Maître, à vous la parole.
Oui, merci mon frère. Il y a beaucoup de victimes des discours de haine en République démocratique du Congo qui jusqu'à aujourd'hui vivent avec leurs bourreaux dans les mêmes communautés et les se regardent en face et les voient passer paisiblement et il n'y a aucune justice à leur endroit. Aujourd'hui, dans notre pays, comme je l'ai dit, je le confirme encore ici, je le réaffirme ici, il n'y a pas une loi spécifique qui condamne les discours de haine ou le tribalisme. La seule base, le seul soubassement légal en dehors d'un article du Code du numérique, c'est une ordonnance loi prise, je pense, à 1965 ou 66, si j'ai bonne mémoire, par le fait président Maréchal Mobutu, qui condamnait expressement les propos tribalistes. Et depuis lors, nous n'avons jamais eu une autre loi qui spécifiquement prévoit des sanctions et une procédure contre les acteurs des discours de haine ou des propos tribalistes. Donc, de façon générale, si vous êtes victime d'un propos de haine, il faut simplement aller saisir la justice en prenant comme base légale l'article du Code pénal qui condamne la diffamation ou encore cet article du Code du numérique. L'unique proposition de loi spécifique, comme je l'ai dit, qui pouvait aujourd'hui être une soupape contre tout ce qu'il y a comme vérité divisionniste ou séparatiste ou tribaliste, c'est la proposition de loi Sakata dont malheureusement le bureau de l'Assemblée nationale n'a jamais aligné. Cette proposition de loi prévoyait d'abord des mesures préventives, une institution publique, un établissement public à la responsabilité du Parlement qui devait avoir comme mission d'abord de sensibiliser contre les discours de haine, mais qui avait aussi pouvoir de saisir la justice au nom des victimes afin que les propos de haine soient condamnés. C'était une proposition de loi qui prévoit des sanctions spécifiques, des sanctions dures contre les auteurs des messages de haine. Mais malheureusement, elle ne peut pas être appliquée maintenant. Au contraire, elle tombera à point nommé parce qu'elle a été déposée depuis 2020, mais jusqu'à aujourd'hui, reçue au bureau du Parlement, elle a été gardée dans les tiroirs. On ne sait jamais la promulguer. Que faire face aux acteurs de discours de haine? Mais les victimes n'ont qu'à se regarder entre les yeux. Ils ne pourront rien faire. Alors il revient à la population, comme je l'ai dit, de doubler sa vigilance, de renforcer sa culture citoyenne pour exiger que les acteurs politiques qui viennent pendant la campagne passent plutôt leur projet de société, discutent plutôt des questions vitaux qui avancent le pays et non des questions péjoratives pour avoir le pouvoir. Parce que s'il faut attendre que les acteurs gouvernementaux réagissent, nous avons dit ici qu'ils sont eux-mêmes les plus grands acteurs du discours de haine et ce sont eux qui sont aussi les plus grands candidats et c'est par eux, comme a dit notre ami de Katanga, c'est par eux que les discours de haine passent. C'est eux qui conçoivent les discours de haine et qui les font véhiculer dans la communauté pour leurs intérêts qui sont leurs. Il revient à la population de cultiver la démocratie, d'exiger, interrompez un candidat qui distille des messages de haine, interrompez-les en plein discours où vous voyez un message, découragez-les dans les réseaux sociaux, signalez son compte ou dites-lui clairement que nous n'allons pas voter pour vous pour ces messages et ils seront découragés et par là ils viendront par d'autres moyens. Nous ne devons pas considérer les élections comme une panacée. C'est l'erreur que nous avons toujours commise depuis 2006, depuis très longtemps. Au Congo, on prend les élections comme une fin. Les élections ne sont qu'un moyen qui permettent à ce qu'on ait des dirigeants qui ont un programme de gouvernement et un projet de société capable de développer le pays. Mais lorsque nous croyons que par les élections, les solutions viennent automatiquement, nous tombons dans les mêmes erreurs qui font que le pays ne développe pas. On prend un exemple, j'ai toujours donné cet exemple. Nous organisons les élections en 2006, en 2011 comme en 2018. Après chaque cycle électoral, il y a contestation du pouvoir. Il y a les institutions qui sont élues sont déclarés illégitimes par, dans l'opinion, par ceux qui contestent. Et cela, à cela s'invite
Maître Gloire.
Des vérités tribalistes.
Oui, Maître Gloire, alors nous comprenons que la meilleure façon de lutter contre les discours de haine, comme vous l'avez dit, c'est d'abord la loi, avoir une loi qui sanctionne ces genres de discours, et puis ensuite bon, sensibiliser les acteurs politiques qui sont, pour la plupart des cas, les auteurs de ces discours. Mais vous, comme vous l'avez dit, un honorable vous a dit que c'est difficile de faire passer cette loi parce que bon nombre d'entre eux sont concernés.
Oui, mais effectivement, il a dit ça. Oui, la meilleure moyen, c'est la loi. Il faut que la loi soit là, et non seulement qu'elle soit là, elle doit être respectée, parce qu'il y a un problème en République démocratique du Congo. Les lois existent, mais elles ne sont pas respectées. Mais si au moins la loi est là, nous savons qu'il y a un soubassement légal, une victime peut se servir de cette loi pour rester en justice contre un propos, un message qui les victimise, un message de haine qui les victimise. Ça, c'est la première des choses. L'État doit être proactif. L'État, les institutions démocratiques, tout ce qu'il y a comme organe qui surveille la communication publique au niveau de médias, il faut qu'il y ait une régulation très pointue, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut que les médias également aient dans leur programme, surtout à cette période, quelques minutes de sensibilisation de la population contre les discours de haine, contre tout discours qui emprunte des velléités tribalistes, afin de prévenir la communauté. Il faut qu'à chaque niveau de la société, au niveau des églises, et là, je pense que le ministère de la Justice, qui garde des choses, le ministère de la Justice, qui a la gestion des églises dans ses attributions, doit vraiment veiller à ce que tout ce qu'il y a comme leader au niveau des pasteurs, les dirigeants des églises, ne véhiculent pas des propos de haine. Parce que nous les vivons où la chair est utilisée pour faire la campagne politique contre ou pour un autre candidat. Il faut que la population redouble sa vigilance citoyenne. Le niveau de citoyenneté, si la démocratie est bien ancrée dans la conscience citoyenne, dans le vécu, si ça devient un comportement, aucun citoyen normal ne pourra accepter qu'un message de haine lui soit destiné par quel moyen que ce soit et qu'il passe. Lorsque nous les bloquons à ce niveau le plus bas comme ça, la sensibilisation, nous freinons la propagation de ces messages au niveau de la citoyenneté, au niveau plutôt de notre vigilance citoyenne, ça va permettre que les acteurs soient découragés parce qu'ils ne trouveront plus de terrain propice à faire couler les matières.
Maître Gloire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la loi, comment faire pression, exercer une pression pour que la loi soit programmée et puis qu'elle soit votée, la loi sur concernant la lutte contre les discours de haine?
Plusieurs démarches ont été faites, plusieurs plaidoyers ont été menés, notamment même par la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, mais ces plaidoyers jusqu'à ce jour sont restés lettres mortes. Plusieurs, en tout cas, des correspondances, nous avons adressé plusieurs fois des plaidoyers auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Les organismes, on félicite encore là aussi les efforts du bureau Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme en ce sens, qui a soutenu les plaidoyers pour que le bureau de l'Assemblée nationale comprenne l'importance de la promulgation, de l'adoption et la promulgation de cette loi. Mais jusque-là, malheureusement, aucun écho n'a été donné à toutes ces démarches. Il revient de constater que le bureau de l'Assemblée nationale a resté droit dans sa logique de ne pas aligner cette proposition. Mais nous espérons qu'avec tout ce qu'il y a comme flambée des discours maintenant, avec tout ce qu'il y a comme propos que nous écoutons, mais aussi en application des discours, des insistances répétées du chef de l'État qui appelle au gouvernement, aux autres acteurs étatiques à réguler le secteur pour vite que les discours de haine ne minent pas la cohésion sociale. Nous espérons que le président les bureaux de l'Assemblée nationale, je ne parle pas du président, le bureau de façon générale, va prendre ce courage-là d'aligner cette proposition de loi pour qu'elle soit votée au niveau du Parlement. Pourquoi pas rapidement acheminer au président de la République pour une promulgation. Mais en tout cas, plusieurs démarches ont été menées par l'auteur de la proposition lui-même, qui à un moment s'est senti même désemparé. Je signale même que le ministère de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté a aussi actionné une démarche en ce sens
Mais jusqu'ici, encore, c'était au niveau du gouvernement. Jusqu'ici, il n'y a pas encore grand écho à se mettre sous la dent. Et nous espérons qu'en écoutant toutes les sensibilisations qui viennent de partout, surtout dans le respect de la vision du chef de l'État, qu'il y a cette volonté d'endiguer les propos de haine, de promouvoir la cohésion sociale et l'unité dans les pays, le bureau de l'Assemblée nationale va au moins écouter et aligner cette proposition de loi
afin qu'elle soit votée. Bien, comment prévenir, lutter contre les discours de haine en période électorale? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. On va accueillir tout à l'heure Justin Kalabia de Bounia pour participer à cette émission. Composez les 099-706-9941.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Bien, comment prévenir, comment lutter contre les discours de haine en période électorale? Justin Kalabia, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour monsieur, je vous bonjour aussi à mon ami.
Quelle est votre question?
Merci monsieur Jody. Ouais, quand j'avais lu ce sujet le matin, j'étais très content. Oui, c'est pour éviter en tout cas déjà des discours de haine et d'éducation en tout cas. Il faut une forte sensibilisation de nos candidats avec nos médias à travers le pays, monsieur Jody. Certes, nous avons souvent les regrets à ce cycle électoral. La RCNC est là pour favoriser le pouvoir en place, alors qu'elle est une chaîne nationale que tout citoyen doit s'exprimer. Mais ce n'est pas le cas ici en République démocratique du Congo, monsieur Jody. Nous en appelons cette partie. Tout candidat doit éviter l'incitation à la haine, car le Congo veut des changements positifs. Et c'est fait, j'ai des questions, monsieur Jody. Oui, la première question. Quelle est, en tout cas, l'instance qui est censée dérédiger cette charte de bonne conduite avec un climat de méfiance entre l'opposition et la majorité? La deuxième question. Les médias qui sont sous, en tout cas, la coupe des acteurs politiques, pensez-vous que les médias avec les auditoriaux vont, en tout cas, contribuer à la prévention du discours de haine à cette période préélectorale? Merci, M. Jody, et bon début de la semaine.
Bien, merci. Maître Gloire, vous avez la parole.
Oui, merci. Et au niveau, par rapport à la Commission électorale nationale indépendante comme institution d'appui à la démocratie, effectivement, a un code de bonne conduite qu'il soumet à la signature de tous les partenaires qui participent aux élections, tous les candidats, qu'ils soient majorité ou opposition. Mais il n'existe pas un texte spécifique qui lie la majorité et l'opposition par rapport aux élections. La loi sur les partis politiques prévoit aussi des sanctions de façon générale, des conduites de façon, pas des sanctions, mais la règle des conduites de façon générale. Les lois du pays sont opposables à tout le monde. Mais la CENI met également en place un code de bonne conduite pour réguler la campagne électorale. Et tous les candidats sont invités à signer ces codes de bonne conduite. Je pense qu'ils vont encore signer ça. Par rapport aux médias, on va aussi féliciter ici certains efforts qui sont en train d'être fournis par le média. Je vais commencer d'abord par la radio Okapi qui, d'abord, c'est dans ses habitudes qui sensibilise toujours contre les discours de haine. Mais il y a également un groupe des acteurs de médias qui ont élaboré un code de médias sur un code de médias. Les acteurs de médias numériques, je pense qu'ils ont élaboré un code par rapport au discours de haine. C'est aussi à féliciter. Mais également, c'est ça qui est en train de faire, de fournir d'efforts pour essayer tant soit peu de réguler, de trouver un équilibre entre les discours au niveau des médias. Mais je pense que ces efforts sont encore à redoubler, surtout au niveau du CESAC. C'est un grand moment où la population a besoin de consommer
des bons messages, des bons projets, d'écouter des bons projets de campagne dans la presse. Il faut que le CESAC redouble d'efforts, qu'il soit regardant avec une impartialité qu'on ne peut pas mettre en cause, afin que la période de la campagne électorale qui s'annonce ici soit équilibrée, surtout des messages qui vont passer dans les médias. Parce qu'il y a certains dérapages qu'on est en train de vivre déjà. Et j'encourage le CESAC de ne pas rester dans les messages de condamnation, mais de continuer. Il a aussi un pouvoir de sanctionner, de prendre des sanctions à l'égard des candidats qui vont aller outre les mesures qui sont établies. Les efforts sont très fournis, nous ne pouvons pas ne pas les reconnaître, mais ils doivent encore être redoublés parce que l'ampleur du message de haine, la luire que donne la campagne électorale qui s'annonce ici est un peu inquiétante. Le code de bonne conduite à la CENI va être signé, et le CESAC également est là pour réguler tous ces messages. Nous espérons que les acteurs, les institutions qui animent les dirigeants qui animent ces institutions vont être très vigilants, mais aussi que les candidats, quand ils vont signer le code de bonne conduite de la CENI, ils vont le respecter. Et là, c'est là où on interpelle l'autorité également du pouvoir judiciaire, que le ministère public soit là pour effectivement arrêter les comportements déviationnistes qui vont aller dans le sens de diffamation ou qui vont aller dans le sens de porter atteinte, violer les lois du pays par rapport au droit de tout le peuple d'avoir la liberté d'opinion, la liberté d'espace.
Que les médias soient équitables, bien entendu. Un instant, on va accueillir un dernier auditeur. Il s'agit de John de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question par rapport à la lutte contre les discours de haine en période électorale?
Ce n'est pas vraiment une question, c'est juste un constat. Moi, j'ai fait un constat dans notre pays. Lorsqu'on met au pouvoir, on plaide pour la cohésion nationale, pour diriger dans la tranquillité. Mais dès qu'on bascule dans l'opposition, ou bien on est dans l'opposition, on cherche à rallier la communauté dont on est ici à sa cause pour dire, regarde ce qu'on nous fait, regarde, nous sommes marginalisés, et ainsi qu'on sort. Mais en dehors de ça, il y a aussi des instruments juridiques au niveau international, que ce soit les incitations à la haine dans le cadre des crimes de génocide, qu'on peut toujours plaider, parce que ce sont des menaces. Lorsque vous dites que Moïse Katoum ne partira pas à Kasumbalé, c'est une menace. C'est une menace sur sa vie. C'est un peu ce que je voulais dire.
D'accord. Maître, qu'est-ce que vous pouvez dire d'après cet auditeur? Il y a des instruments au niveau international. On peut recourir à ces instruments-là pour lutter contre ces genres de discours et surtout les menaces.
Oui, effectivement, les menaces, même le code pénal congolais également prévoit également les menaces comme c'est prévu et puni aussi par le code pénal. On peut effectivement recourir à ça. J'étais en train de dire tantôt ici que l'impunité dans notre pays est entretenue à un certain niveau parce que les auteurs des discours de haine sont généralement ceux qui sont censés appliquer les lois. La difficulté à ce niveau, puis déjà qu'on n'a pas une loi spécifique à l'interne, tu vas brandir une disposition internationale pour qui va t'écouter par rapport à ça. L'impunité est entretenue. Les acteurs des discours de haine sont ceux qui sont censés les combattre. C'est ça la difficulté. Et l'ami l'a si bien dit. Quand on est au pouvoir, on parle de la cohésion nationale. Quand on est dans l'opposition, on cherche à trouver des alibis pour se victimiser
Maître
et
Gloire.
Avoir la sympathie du
peuple. Maître Gloire, on n'a plus beaucoup de temps. On a déjà consommé les temps impartis pour cette première partie de l'émission. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger autour de la lutte contre les discours de haine en période électorale. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'action citoyenne des luttes contre le discours des haines. Bonne journée, Maître Gloire, Manessa, et à la prochaine.
Merci beaucoup.